Question d'Islande par Ghaleb Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de problématiques contemporaines, de ces préoccupations du monde islamique d'une manière générale, et tout particulièrement, on va parler de l'Iran, du peuple iranien, ce peuple légataire et héritier d'une grande civilisation, la civilisation des Perses. Comment se fait-il que ce peuple est tombé dans les griffes et dans le piège de l'islamisme politique ? Pour évoquer ce sujet, j'ai plaisir à accueillir Sahla Shafi.
Merci.
Bonjour, vous êtes sociologue, titulaire d'un doctorat en sociologie, vous êtes écrivain, écrivaine, vous êtes essayiste, auteur de nombreux ouvrages, dont un qui a été primé par le prix Le Monde, Islam politique, sexe et genre à la lumière de l'expérience iranienne. Et si vous voulez bien, nous consacrerons l'ensemble de l'émission à, selon vous, comment va se faire la sortie de l'ornière et s'affranchir des enfermements doctrinaux de l'islamisme politique. Ma première question pour vous, Sahla Shafi, elle relève des présupposés politiques, idéologiques, des motivations intellectuelles qui ont enrobé la vente, si je puis dire, de l'islamisme politique en Iran. Comment cela a pu advenir ?
C'est une question qui me hante. Maintenant, je pense que ça va faire près de 3 décennies. L'année prochaine va être 40e anniversaire de l'arrivée de la République islamique en Iran, ce qui a causé mon exil également, à l'instar de beaucoup de jeunes de ma génération à l'époque.
Qui n'avait pas supporté la chape de plomb qui est venue avec l'islamisme politique.
Oui, d'une part, et d'autre part, il y a une répression très importante des anciens alliés de la révolution qui s'est mise en place par les islamistes au pouvoir. Et ça, on ne l'avait pas prévu. Moi, personnellement, j'étais sur la liste noire étudiante active de gauche. Et donc, ce n'était pas du tout un départ voulu, mais plus imposé dans le cadre d'un exil qui était très douloureux. Mais en même temps, on avait derrière nous un bain de sang et un pays qui, on ne pensait pas du tout laisser ce pays à la République islamique, mais par la force des choses, ils sont restés et moi, je suis restée ici.
Vous avez choisi de venir vous installer à Paris.
Ça aussi, ce n'était pas un choix, c'était quand même tout à fait un hasard, puisque j'avais des moyens d'avoir un visa français sur un passeport faux. Donc l'exil va, dans beaucoup de cas, avec la clandestinité, et va avec une nécessité vitale, ce qu'aujourd'hui, à notre époque, hélas, on continue à ne pas comprendre. On pense que les gens font le choix d'eau, alors que les exilés ne font pas le choix d'eau. Ils sont impulsés. Maintenant, je suis contente que c'est la France qui m'a accueilli, qui est devenu mon pays d'adoption, parce que j'ai appris cette langue française dans laquelle je peux échanger avec cette société et en même temps faire quelque chose, et y compris avec la France, et qui, comme tous les pays du monde aujourd'hui, est face à cette problématique. Ce n'est pas que l'Iran, l'islamisme ou idéologisation de l'islam pose problème, comme aussi les autres intégrismes religieux dans le monde actuel. Donc effectivement, quand j'ai commencé à travailler sur cette question, c'était par la hantise personnelle. Et j'ai pensé, le premier livre, quand il est sorti en 1991, je me suis dit, c'était La femme et le retour de l'islam, je me suis dit, maintenant ça y est, je vais écrire autre chose, puisqu'en même temps j'écrivais les nouvelles, mais en persan, en langue persane. Mais chaque jour et chaque année amenait quelque chose de plus. Et en même temps, je découvrais avec effroi qu'ils vont rester et que c'est un projet politique très conséquent. Donc ce qui a fait que j'ai continué dans ce domaine à écrire, et finalement ma thèse de doctorat aussi, qui a été couronnée par ce prix, c'était consacré à cette expérience, puisque cette expérience iranienne est un laboratoire pour connaître les mécanismes, les causes sociales, politiques et culturelles et les mécanismes de développement de cette idéologie. Bien sûr que chaque pays a ses propres conditions, mais en même temps, l'expérience iranienne est très, très intéressante pour comprendre ce qui se passe vraiment parce que l'islamisme vient par une révolution antidictatoriale. C'est une vraie révolution contre la dictature.
Parce qu'on voulait s'insurger contre les conditions de vie et contre ce qui se présentait comme la tyrannie du temps du Shah.
Voilà. Alors que l'Iran était un pays qui avait vécu comme le pays du Maghreb d'ailleurs, et comme l'Égypte d'ailleurs. Tout au cours du XXe siècle, une modernisation sociale et culturelle qui allait avec la sécularisation aussi. Et donc il y avait... L'image de l'Iran avait complètement changé. Et comme peut-être certains le savent, l'Iran était le premier pays qui avait fait, au début du XXe siècle, une autre révolution, qui était la révolution constitutionnelle à l'époque, qui portait les idéaux démocratiques. Et des décennies après, l'Iran tombait dans une autre révolution qui revendiquait aussi liberté, égalité, etc., mais qui est tombée dans l'inverse.
Arrêtons-nous, si vous voulez bien, Shahla Shafiq, sur la constitution de 1906. Beaucoup, et parmi les observateurs, l'a considérée comme une constitution moderne, d'une monarchie constitutionnelle, qui n'avait pas son équivalent ni dans la Russie tsariste, ni ailleurs, enfin dans les voisins immédiats de l'Iran. Comment se fait-il qu'un tel progrès constitutionnel et cette avancée politique, petit à petit, puisse connaître une régression?
La révolution constitutionnelle de 1906 à 1911, en fait, moi, quand j'étais étudiante, comme toute ma génération et beaucoup aussi les aînés, ne faisaient pas tellement attention. Cet héritage était quelque part absent de débat intellectuel en Iran, ce qui fait que dans tous les pays comme où il y a la tyrannie ou la dictature, une des conséquences, c'est aussi cette absence de mémoire. C'est qu'il n'y a pas un débat sur ce qui s'est passé avant. C'est après la révolution de 1979 que, comme disent les historiennes de la révolution, les historiennes actuelles de la révolution constitutionnelle, c'est devenu une problématique de débat. Je pense que c'est vraiment très dommage. Mais ça s'est passé comme ça. Alors, dans cette révolution, au début aussi, il y avait, comme toutes les révolutions, les forces et les acteurs et les actrices étaient nombreux et des tendances étaient très plurielles. C'était une révolution pluraliste. Mais à la fin, c'est-à-dire quand la loi a été votée, il y a deux points qui sont importants. Un, l'islamisme, les islamistes de l'époque, Cheikh Fazlullah Nouri, par exemple, Don Khomeini, revendiquaient l'héritage spirituel ou l'héritage politique a échoué. Il a même été pendu sur la place publique avec l'approbation des ulamas qui étaient pour la révolution constitutionnelle. Donc c'est déjà les islamistes.
Les ulamas étant les docteurs de la loi, les savants, les religieux.
Tout à fait. Et il y avait parmi ces ulamas les gens qui étaient plus ouvertes et qui étaient ouvertes à des idéaux un peu de lumière, qui guidaient quelque part cette révolution constitutionnelle. Donc le premier point, c'est l'échec cuisant de l'islamisme de l'époque, mais cet échec n'était pas complet parce que la loi qui a été votée a, avec le rapport de force de l'époque, quand même, le religieux a gardé sa mainmise quelque part. Ça veut dire que ça a été un droit de veto qui a été réservé aux religieux. Après, voilà, ça c'est pour la révolution constitutionnelle, donc il y avait des ambiguïtés, mais culturellement, socialement et politiquement, c'était une avancée quand même. Après, c'était la dynastie de Pahlavi, qui a fait aussi des réformes très importantes, bien sûr, socialement, culturellement, et pour la société iranienne, pour changement, l'urbanisation, la question aussi de sécularisation, tout ce qui est l'accès des femmes aussi à l'éducation, qui avait commencé avant, bien sûr, mais qu'ils ont accentué. Donc, effectivement, c'était ça. Mais malheureusement, ce que j'appelle une modernité mutilée, c'est que...
Qu'est-ce qui lui manquait?
La démocratie. Ça veut dire que comme le cas des pays du Maghreb aussi, donc dans tous les, puisque j'ai fait un peu un travail comparatif entre l'Iran et ces trois pays pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment Algérie, Maroc et Tunisie. Donc même dans les cas de Bourguiba où le sécularisme est très avancé, par exemple la question d'héritage qui est aujourd'hui en jeu en Tunisie, héritage, égalité dans l'héritage, n'a pas été touchée. Parce que les États autoritaires ont aussi instrumentalisé quelque part l'identité nationale et l'identité religieuse à des fins de l'autoritarisme. Donc les islamistes en ont bien profité, puisqu'il y a eu quand même une répression des libertés, plus ou moins, mais en Iran de toute façon il y a eu. Et en même temps, surtout le dernier Shah de Pahlavi, pensait que en donnant les avantages aux religieux qu'ils pensaient pouvoir contrôler politiquement et dominer politiquement, ils pourraient réprimer la gauche et les libéraux. Donc toute cette équation a fait que les islamistes étaient le seul acteur politique en face au peuple. Ça veut dire en fait tous les réseaux de mosquées, d'écoles religieuses et tout le monde n'était pas islamiste, mais oh comme ils étaient actifs. Comme par exemple en Tunisie, après la révolution, ils ont bien profité de ce réseau, alors qu'en même temps, les libéraux, les social-démocrates, la gauche, etc., n'avaient pas de tribunes libres. Donc, c'était d'une part ça. D'autre part, ce qui est important à se rappeler, c'était l'époque de la guerre froide. Et dans l'époque de la guerre froide, les pouvoirs occidentaux, qui ont parlé de la stratégie de ceinture verte. Qu'est-ce que ça veut dire cette stratégie pour les personnes qui n'en ont pas entendu parler?
C'est contenir le pouvoir communiste soviétique par l'islamisme.
Voilà. Ou le pouvoir rouge par le vert, entre guillemets.
Donc, il y avait le péril jaune plus loin et c'était un spectre de couleurs. Oui.
Voilà, tout à fait. Donc, ces pouvoirs occidentaux ont joué le rôle aussi en faveur de l'islamisme, de l'idole. Puisque moi, je fais la distinction entre l'islam en tant qu'une religion et l'islamisme en tant qu'idéologisation du religieux. Et donc, cette idéologisation du religieux a profité à la fois des dictatures locales et des pouvoirs occidentaux qui regardaient avec un bon œil cette capacité de manipuler le religieux à des fins politiques. Et enfin, pour complexifier encore le tableau, il y a eu aussi des intellectuels à l'intérieur du pays. J'étais jeune étudiante, mais il y a eu mes aînés. En fait, l'ambiance était pour le mépris des valeurs démocratiques à l'époque, puisque c'était considéré pour les plus radicaux de gauche et tout comme une infrastructure de la bourgeoisie, les valeurs démocratiques. Et tout simplement, il y a eu une confusion théorique entre l'impérialisme et l'Occident. On rejetait les valeurs occidentales, entre guillemets occidentales, les valeurs démocratiques, etc. Alors qu'à l'époque de la révolution constitutionnelle, ces valeurs étaient
universelles.
Voilà, il y avait une fascination parmi les intellectuels envers la lumière. Mais après, avec tout ce qui s'est passé dans la période contemporaine, il y a eu une diabolisation de l'Occident qui a bien joué en faveur de l'islamisme.
Oui. Alors, on arrive à la figure de Khomeini. Peut-être quelques mots sur ce personnage. Son exil d'abord dans l'Irak voisin et puis sa présence à Neuf-le-Château sur le sol français.
Oui, il est arrivé par l'exil et dans cet exil en Irak tout d'abord qu'il avait dans les années 70 fait des cours à la fin de 60 et 70 des cours sur Walayat Faqih.
Walayat Faqih, ça c'est l'appellation un peu arabe du mandat du jurisconsulte.
Tout à fait.
Qui est une innovation très récente dans l'histoire du chiisme. Elle date, me semble-t-il, de la fin du dernier tiers du 19e siècle. Mais c'est lui qui lui donnera davantage d'incarnation.
Tout à fait. En fait, lui, en tant qu'acteur politique, puisqu'il s'est fait... Il est sorti sur la scène publique comme un jeune leader religieux très actif et politique, puisqu'il y a eu des autres leaders religieux en schisme, il y a quand même des marges,
des références, voilà. Savez, oui.
Des références, et il y avait parmi ces références les gens qui étaient tout à fait dans l'idée classique de ne pas rentrer, ça veut dire en fait on attend le retour, le, voilà, la venue de l'imam Zaman, Mehdi, et donc le chiisme pourrait être même apolitique tout en étant dans l'alliance avec le pouvoir politique bien sûr. Et donc il y a eu des grandes autorités qui étaient en alliance avec le régime de Shah et avec le Shah lui-même, et même à l'époque de coup d'État contre Dr Mossadegh, qui était quand même le leader aimé populaire de la nationalisation de la pétrole. En
pour des considérations de pétrole, le coup d'État.
Voilà, dans les années 50, en 1953, ce coup d'État a lieu, et ça a joué aussi en faveur, après, de l'islamisme. Ayatollah Kashani, à l'époque, était allié de Shah contre Mossadegh, puisqu'il pensait qu'il était ouvert, libéral, etc., et il ne voulait pas. Donc c'est très complexe, la position de clergé chiite n'était pas unique et unifiée. Khomeini a eu cette ambition politique d'imposer son autorité sur tout le clergé, et il a réussi à le faire par cette théorisation qui a séduit pas seulement les religieux, mais aussi qui lui a donné un aura révolutionnaire qui a séduit les autres forces de l'opposition de Shah, dont le danger de l'idéologisation de religieux leur aurait été méconnu. À l'époque même, on ne connaissait pas le mot islamisme.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de la contemporanéité des problèmes iraniens. Comment se fait-il que le peuple iranien est tombé dans le piège de l'islamisme politique? On est à la veille du 40e anniversaire d'une telle idéologisation de la religion islamique. Nous abordons ça avec l'intellectuelle iranienne Shahla Shafir, sociologue, écrivain, essayiste, auteur de nombreux ouvrages, de romans, de nouvelles, d'essais. Le livre « Islam politique, sexe et genre à la lumière de l'expérience iranienne » a été primé, il a reçu le prix Le Monde. Et Shahla Shafir, vous continuez à produire. Nous essayons de voir avec vous pour cette deuxième partie de l'émission comment donc ce piège de l'islamisme politique s'est refermé sur et contre le peuple iranien, avec parfois la complicité d'intellectuels occidentaux. Je ne veux pas charger Foucault, mais entre autres, mais il y voyait une aspiration du peuple iranien à l'émancipation via des approches spirituelles chez un grand mystique et un religieux et un homme de paix.
Tout à fait, mais si vous voulez, moi je suis tout à fait d'accord pour ne pas charger seulement Foucault, puisque Foucault a reconnu, une fois qu'il a vu le bain de sang qui a été fait, moi j'ai fait une critique de sa conception, puisque je pense que ça enracine dans son idée de rejet un peu de la modernité. Mais en même temps, après, ça a continué. Et dans la période de règne, dans ces 40 ans de règne de République islamique, beaucoup de sociologues, ethnologues et d'autres gens de la science humaine ont essayé de un peu inventer une image positive de la République islamique en disant que c'est de toute façon une sorte de démocratie. Je ne veux pas donner les noms puisque la liste va être très longue.
Oui. On y voyait, pardon Shahla Shafir, oui, dans la démocratie, l'aspect formel, il y avait des élections, il y avait des candidats, etc. Mais tout est subordonné à cette idée saugrenue, biscornue, du jurisconsulte qui détenait les pouvoirs sur la police et la justice, par exemple.
Bien sûr, puisqu'il y a une hiérarchisation de pouvoir selon la théorisation de règne de guide suprême religieux, Valéat Fari, qui se traduit comme ça. Il y a toute une hiérarchisation qui verrouille le pouvoir. Tout est subordonné, comme vous le dites, à ce pouvoir. Et maintenant, aujourd'hui, on voit l'échec total, mais on l'a vu depuis les années 90. Mais les personnes, certains intellectuels ou spécialistes de différentes branches de sciences humaines ont essayé de maquiller ça en donnant une vision très simpliste de la démocratie, comme si la démocratie pouvait, de manière générale, se réduire à l'élection, ce qui n'est pas le cas. Même dans certaines dictatures, il y a l'élection. Et d'autre part, de ne pas voir l'aspect verrouillé de ce pouvoir en Iran. Mais aujourd'hui, je me rappelle, après j'avais fait un livre qui s'appelle « Le nouvel homme islamiste, la prison politique en Iran », qui est consacré à cette répression énorme après l'arrivée des islamistes, et je me rappelle qu'à l'époque, on me disait que ce livre est très radical. Mais aujourd'hui, ça devient banal, puisque tout le monde sait maintenant ces années noires, comme pour les années noires de l'Algérie ou ailleurs, etc., etc. Toujours par cette idée de dichotomie civilisationnelle. C'est-à-dire, c'est leur univers. On essaye de ne pas voir la réalité. Ça veut dire, en fait, ce qui se passe dans le milieu, parfois dans le milieu intellectuel, dans les recherches même, on n'emploie pas les mêmes critères pour les pays dits musulmans que pour les pays occidentaux. On n'a pas les mêmes critères. Et comme si ces pays échappent à l'historicité, comme si ces pays échappent au rapport de force politique, alors que tous ces pays sont la scène des rapports de force politique. Donc, on ne voit pas les événements historiques, les événements politiques et sociaux, avec un œil moderne. Quand je dis moderne, l'œil moderne, c'est la réflexion critique qui passe les choses au crible de la critique et essaye de voir les gens comme égaux, les personnes ou les acteurs de ce pays comme égaux et les analyser et être dans un dialogue critique avec ça. Donc, en Iran aujourd'hui, le pays s'est enfermé dans cela. En même temps, les ambitions du régime ont été internationales. Aujourd'hui, on est dans encore dans une absurdité de guerre entre les religieux sunnites, chiites, etc., qui est manipulée encore pour les choses.
Surfaite et exploitée et, après coup pour des considérations géostratégiques.
Tout à fait.
Shahla Shafir, je voulais simplement, pour avancer, voir comment la sortie de crise peut se faire intrinsèquement, c'est-à-dire comme une affaire intérieur et qui concerne au premier chef les Iraniens eux-mêmes,
bien
et j'ai
sûr.
Envie de dire les Iraniennes, parce que vous pensez à juste raison que le salut viendra aussi de la femme iranienne.
L'évolution de l'Iran pendant ces 40 années, c'est encore un tableau en soi de voir de l'échec cuisant de l'islamisme, mais aussi de la résistance, puisque effectivement le tableau n'est pas entièrement noir, c'est un tableau presque cubiste. C'est un tableau avec plusieurs dimensions. Si on rate une dimension, on ne le voit pas les autres. Il y a les zones d'ombre, il y a les zones de lumière. Et parmi les zones de lumière, il y a une résistance, bien sûr, très difficile, qui continue. Il y a la société civile qui, dès les années 70, a continué à produire une autre culture. Il y a une guerre culturelle très importante. Et ça, c'est aussi d'ailleurs le sujet de livre Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, puisque moi-même, je me suis surpris en faisant, puisque pour ce roman, le dernier roman, Demande au miroir, un des personnages venait de l'Iran, un jeune. Et quand j'ai regardé dans les blogs, pendant un an, je lisais les blogs des jeunes iraniens, et je suivais depuis des années le mouvement des femmes iraniennes qui sortent sur la scène politique. Et il y a eu, par exemple, en 2004, je pense, maintenant, oui, je suis presque sûre, il y a eu un mouvement qui s'appelle Campaign d'un million de signatures pour l'abrogation de toutes les lois discriminatoires, puisque la République islamique a imposé au nom de la religion la charia, et donc qui considère la femme comme la moitié de l'homme dans tous les domaines. Très tôt, il y a eu des résistances. Il y a eu, juste après que Khomeini, en mars 79, c'était juste après la révolution, c'était dans l'époque de printemps de la liberté. Moi, je me rappelle très bien, puisqu'on était très, très contents de vivre ce printemps. Il a fait une sortie très extraordinaire en appelant les femmes à venir voiler dans les lieux de travail. Et ce qui s'est après généralisé. Le lendemain, des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de femmes étaient dans la rue de Téhéran, manifestées de manière spontanée contre cet appel, en disant « nous n'avons pas fait la révolution pour revenir en arrière » et dans les grandes villes en Iran. Aujourd'hui, comme si en écho à ce mouvement-là qui a été réprimé quelque part, puisque tout le monde disait « c'est le moment révolutionnaire, c'est pas la peine de s'occuper de ces choses, c'est des questions de bonnes femmes, etc. » Mais ça s'est avéré après que c'était une question politique par excellence. C'était pas la question Il y a eu des hommes qui l'ont compris aussi, puisque dans cette manifestation, il y a eu aussi des hommes qui ont soutenu. Mais il y a eu aussi beaucoup des hommes et des femmes qui l'ont pas soutenu, puisqu'ils pensaient que c'était pas nécessaire. Et aujourd'hui, il y a des mouvements des jeunes femmes qui se dévoilent dans les lieux publics. C'est pas pour focaliser sur cette question. C'est l'image de début de la révolution avec cette manifestation massive de femmes. Et aujourd'hui, avec les jeunes femmes qui sortent en acceptant le danger pour dire non, avec le cinéma iranien, la musique iranienne, les avocats iraniens, les avocats et les avocates qui défendent les prisonniers politiques qui sont actuellement en prison parce qu'ils ont défendu. C'est vraiment très surréaliste comme tableau. Moi, quand je regardais dans ce bloc, donc j'étais très étonnée de voir que Simone de Beauvoir sort dans le bloc de manière un peu de rêve. Mais alors que pour ma génération, c'était Sartre.
Shahla Shafir, il y a deux choses. Vous dites très tôt, on a voulu appliquer la charia, mot d'ailleurs dont on a besoin de le démythologiser, démystifier, etc. Ma question, c'est que l'application de cette loi dite de Dieu ou sacrée ou d'inspiration religieuse, dans sa coloration chiite, nous pensions qu'elle serait moins discriminatoire, mais on a appris que les partis les plus rétrogrades, atteignant et altérant la dignité humaine dans sa composante féminine. Et la seconde chose, c'est que, indépendamment de la question symbolique du voile, mais elle n'est pas si symbolique que ça, elle est cruciale. Donc vous pensez que la résistance et l'émancipation viendra par ce mouvement de résistance qui consiste à se dévoiler et de ne pas l'accepter. Et puis, on se place aussi sur le plan juridique avec ce mouvement des avocats. Et d'un point de vue intellectuel, on se réapproprie Simone de Beauvoir.
Voilà, c'est un tableau qui résume, mais c'est la réalité est beaucoup plus complexe. En fait, ce mouvement, c'était les jeunes féministes, parmi lesquels il y avait des avocats, mais aussi des artistes, mais aussi des étudiants, lycéens, lycéennes. Ce qui est intéressant dans la situation iranienne, c'est qu'il y a de multiples initiatives. C'est pas que seulement par rapport au dévoilement. Il y a aujourd'hui, par exemple, en Iran, des grèves partout. Mais ça se dit pas ici. Il y a des ouvriers qui ne sont pas été payés. Il y a une pauvreté galopante. C'est ce qui est extraordinaire.
Aggravé par le contexte international et les histoires de Donald Trump.
Bien sûr, tout. Mais avant même Trump, il y avait la politique économique de République islamique, puisque c'est ça qui est intéressant. Les islamistes sont arrivés au pouvoir, personne ne savait qu'est-ce que l'économie islamiste. Mais tout le monde savait qu'est-ce que il avait des ambitions moralistes. Depuis presque 25 ans, on vit une progression de la pauvreté qui est aussi l'apparition d'une nouvelle classe sociale très riche. La différence entre pauvres et riches s'est accentuée. Il y a beaucoup, beaucoup de corruption de politique économique et sociale. Et il y a récemment les mouvements que l'année dernière ont éclaté. C'était des mouvements des peuples. En 2009, c'était les classes moyennes qui sont sorties dans la rue pour dire « je voudrais voter » puisque leur vote a été récupéré à l'époque. L'élection a été récupérée, l'élection entre guillemets, même cette élection délimitée et bien verrouillée a été quand même encore dérivée par le pouvoir à l'époque. Et l'année dernière était le mouvement de peuple, des gens déshérités dont la République islamique pensait représenter, qui étaient dans les rues. Et tous les slogans étaient contre l'idéologisation de religion. Je vous donne seulement un. C'était « Tu as fait de la religion un tremplin ». Tout nous a pillé. C'était maintenant c'est rythmique en persan. Là, le peuple n'en peut plus. Mais
et le peuple s'est réveillé sur cette affaire de la religion manipulée, instrumentalisée, domestiquée pour d'autres fins que spirituelles. Et de ce point de vue-là, ce slogan, et qui en plus a une assonance et qui est rimé en langue persane, fait ébranler le pouvoir en place ou ça le pousse à plus de répression. On dit souvent que le bolchevisme a mis 80 ans pour imploser de l'intérieur. Vous pensez, Shahla Shafir, que l'islamisme politique à la manière chiite en contexte iranien, qui en est à la moitié du point de vue du temps, pourra s'effondrer de l'intérieur bientôt?
Je ne sais pas, parce que en fait, il y a beaucoup de résistance depuis plusieurs années, plusieurs décennies même. La situation internationale est très difficile. Les Iraniens, quand ils ont choisi un peu, en fait, ils ont toujours hésité, mais ils sont venus. Chaque fois que l'occasion est présentée, ils sont venus dans la rue. Mais il y a quand même aussi une inquiétude énorme par rapport à qu'est-ce qui se passera après. Puisque la situation du Moyen-Orient, toutes les perspectives sont quand même très, très désespérantes. Moi, je pense que la solution doit venir et viendra de l'intérieur, puisque ce serait une guerre de plus va être catastrophique pour tout le monde et les bénéfices iront encore au régime, comme la guerre de l'Iran avec l'Irak, dont Khomeini a dit « c'est une grâce divine pour nous ». Parce qu'il a mobilisé quand même grâce à cette guerre. Donc le paysage de guerre, ça effraie les Iraniens avec raison. Là, toute résistance est réprimée. Les alternatives politiques sont réprimées. Donc les gens essayent. Mais moi, je ne peux pas dire que c'est pour demain ni pour après. J'espère. Moi, la seule chose qui me donne d'espoir, c'est que l'Iran est une société qui bouillonne. Comme, moi, je dirais comme beaucoup de pays, puisque les gens ne sont pas des marionnettes. En plus, seulement dans ces derniers mois, il y a eu plusieurs exécutions. La mort avec la guerre, après avec les exécutions, avec la répression. Je parle de l'islamisme un peu, de cette idéologie, et aussi en Iran, c'est une mort-thérapie. Quand il y a la prostitution, on propose la mort, l'exécution comme une solution à la prostitution, à la drogue qui fait ravage, puisque ce sont des méfaits sociaux. Mais la solution que propose le régime, c'est la répression et à la fin l'exécution des têtes. Et donc pour la politique, c'est l'exécution. Donc on a récemment plusieurs exécutions qui se sont faites. Un darwish, Mohamed Salas, qui était exécuté. Les darwishs qui se disent des musulmans, bien sûr.
Des mystiques, les fameux derviches tourneurs ailleurs, voilà. À Konya. Donc on n'exécute pas en principe un derviche.
Voilà, ils ont exécuté parce qu'il a été inculpé dans une manif de darwishs, puisqu'ils sont très réprimés d'un meurtre. On l'a inculpé alors qu'il a dit qu'il était innocent. De toute façon, il a été exécuté publiquement. Il y a eu une femme qui a été exécutée, une jeune femme qui, à 15 ans, a été donnée au mariage. Ça veut dire, en fait, lui, pour fuir la famille, à 17 ans, il a tué son mari. Il a été violé par son beau-frère. Et une histoire très tragique, mais il a été exécuté à 22 ans. Et trois Kurdes actifs qui ont été exécutés, mais actifs de la société civile, ils n'étaient pas armés. Voilà le tableau des exécutions récentes.
Et la situation des minorités, les Bahaïs, par exemple.
Oui,
C'est-à-dire qu'il y a une répression aussi au niveau de la liberté de conscience, de la liberté religieuse. Et là, ça bouillonne, il y a des revendications pour l'ensemble du peuple iranien d'asseoir davantage de libertés fondamentales.
Bien sûr, je dirais que quelque part, les slogans laïcs, laïcité dans le sens de la liberté de conscience, peut-être pas avec la même traduction qu'ici, le sens, la liberté de conscience est une des revendications aujourd'hui. L'Iran est un pays pluriethnique, plurireligieux, et effectivement, la domination de la loi de charia au nom de la religion chiite, a même réprimé les sunnites, qui sont 10%, mais quand même, à Téhéran, au capital, tu ne peux pas avoir un mosquée sunnite. La religion arménienne chrétienne, la religion zoroastrienne, la religion qui était ancienne, la plus ancienne pré-islamique, et la religion juive, qui était la deuxième, bien sûr, mais qui était la deuxième religion, mais maintenant ils ont... Leur nombre a beaucoup diminué par rapport à cette suspicion qui pèse sur eux. De toute façon, il y a trois religions qui sont reconnues. Les religions de livres sont, entre guillemets, reconnues. Mais ils sont sous la loi de la charia. Un exemple, c'est que la loi de Talion, qui est instaurée dans la République islamique, qui fait la base de la justice, si un juif, si un arménien, si même, voilà, les bahaïtes, n'en parlons plus, puisqu'ils sont complètement réprimés, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le droit d'aller à l'université, les bahaïtes, puisque c'est considéré comme une religion illégale.
Et une hérésie de l'islam, parce que c'est venu après la prédication mohammedienne, oui.
Tout à fait. Et en même temps, même s'il y a, par exemple, un chrétien fait un accident, tout quelqu'un, son témoignage a la valeur de la moitié d'un musulman. C'est quand même une discrimination qui est bel et bien là, même pour les religions de livre qui ont au Parlement des représentants.
Oui, mais ceci est une construction humaine, puisque rien ne la fonde du point de vue scripturaire. Et c'est curieux qu'au XXIe siècle, on en soit encore à cette approche-là. که بر آن کس که نه عاشق به جز امکار ندارم دل غیر تا نجویم سوی غیر تا نپویم
گل هر باغ نبویم سر هر خار ندارم. گل هر باغ نبویم سر هر خار ندارم.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Shahla Shafir, sociologue, écrivain, essayiste, qui parle avec beaucoup de distance, de recul, de froideur d'esprit, mais avec une détermination à voir le peuple iranien s'émanciper et s'affranchir du joug de l'islamisme politique. Vous parlez du rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir pour revenir à l'aspect à la fois intellectuel, culturel, et à cette idée que le salut viendra des Iraniens eux-mêmes et des Iraniennes avant tout au premier plan. Vous avez je ne vous demande pas une telle ou telle prédication, mais des idées, des signes annonciateurs, j'aurais dit des signes prodromiques, des signes qui annoncent que finalement la tyrannie, cette fois-ci au nom de Dieu, connaît des fissures, peut-être même qu'elle vit ces derniers moments.
Moi, je pense, dans ce que j'ai réfléchi, puisque c'est un sujet ouvert, le retour de religieux dans la politique de cette façon, qui est inédite dans notre époque moderne, c'est pas limité à l'islam. Regardons la situation du Brésil aujourd'hui, regardons la situation de l'Europe de l'Est aujourd'hui, regardons, pour moi, pour dire de la manière résumée, on est face à un recul des mouvements humanistes, un vide politique qui a été créé en deuxième moitié du XXe siècle, pour des raisons différentes, y compris le recul des idéaux démocratiques et humanistes, et que ce vide est rempli par les mouvements identitaires, général, identité nationale exacerbée, identité religieuse exacerbée, identité sexuelle exacerbée, et qui vient avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, le racisme, l'extrémisme religieux, l'homophobie, l'antisémitisme, etc., etc. Ça, c'est un phénomène d'époque et qu'il faut prendre au sérieux. En ce qui concerne nous, les pays dits islamiques, qu'on ne doit pas enfermer dans l'identité religieuse aussi.
C'est curieux, on parle du monde musulman depuis Jakarta jusqu'à Dakar. Parfois, on y inclut même le Suriname.
Tout à fait. Mais aujourd'hui, on est aussi face à ce fléau qui est un fléau identitaire, politique et néoconservateur, comme c'est le cas des autres fléau identitaire, ce sont des mouvements néoconservateurs fascisants. Il faut dire les choses comme elles sont, ce n'est pas des insultes, c'est une analyse. Mais en même temps, comment on pourrait penser que le monde en sortira si ce n'est pas que par s'accrocher à cet humanisme? dans la pensée et dans l'action, dans le praxis. L'Iran, ici, moi je dirais, la société vit comme tous les pays, comme toutes les sociétés qui ont été sous le règne de despotisme puis totalitarisme, une prédominance de mensonges aussi. Ça veut dire en fait les gens ne peuvent pas vivre au grand jour ce qu'ils sont. Et donc, ça crée quand même aussi pas mal de difficultés dans l'expression politique. De toute façon, l'expression libre n'existe pas. C'est pourquoi prédire, c'est très difficile, puisque même dans là où il y a la liberté politique, les sondages sont relatifs. Pour l'Iran, dire l'opinion publique, c'est très difficile. Mais ce que je lis à travers les livres, le cinéma, la musique, les blogs, les manifestations, les informations, donne l'image d'un pays qui résiste énormément, mais en même temps épuisé et désespéré, par cette chape de plomb depuis 40 ans. La jeunesse iranienne, que ce soit les femmes, bien sûr, sont devant de la scène, puisque c'est elles qui cumulent les discriminations. Elles sont discriminées à la fois comme iraniennes, mais aussi comme femmes. Et en même temps, c'est jamais les femmes étaient aussi déterminées à avoir leur place dans la société. Des femmes éditrices, des femmes traductrices, les femmes artistes, les femmes, voilà, les femmes qui chantent. Et même, ça c'est intéressant puisque les femmes ont été interdites de chanter, puisque la voix des femmes semble être intrigante pour les islamistes, mais les grandes chanteuses iraniennes n'ont jamais si prospéré.
Et c'est une forme de résistance par la musique, par le chant, par l'art.
Oui, mais en même temps aussi, ça donne la passion de la vie. Comment on pourrait, puisque moi, je pense que toutes les idéologies totalitaires propagent la mort, pas seulement la mort par la guerre, mais aussi la mort dans l'âme.
Ce sont des idéologies mortifères.
Voilà, absolument. Et là, il y a une résistance face à cette mort dans l'art et dans la culture aussi, dans la politique bien sûr, mais dans la politique c'est très réprimé. Donc il y a des espaces parallèles qui sont ouverts dans la société. Et toi, moi dans ce livre, je le dis, je l'ai découvert d'ailleurs aussi en suivant tout ce qui se passe, l'underground iranien. C'est autre chose.
Là, vous parlez, pardon, du livre Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir.
Oui. C'est autre chose. C'est pas caché comme, par exemple, dans les dictatures de Franco ou ailleurs, ou de soviétisme, voilà, totalitaire ou ailleurs, ou dans le fascisme hitlérien. Il y a des points communs, mais il y a aussi des points de différence qui est aussi l'époque, puisque les réseaux sociaux créent quand même des espaces parallèles où la censure totale devient presque impossible. Bien sûr, le régime utilise aussi les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a le filtrage. Mais les Iraniens sont devenus spécialistes de anti-filtrage, ils cassent, ils font. Il y a une scène, si c'était pas trop triste, si c'était pas trop... C'est une scène de vie fabuleuse dans cette lutte contre la censure, mais en même temps, il y a beaucoup de dégâts. Quand tu vois les vies brisées, quand tu vois quand même que même les intellectuels ne peuvent pas exprimer le rapport au Dieu. Les laïcs n'ont pas le droit de citer. Les athées sont passibles de la peine de mort. Mais ceci étant, si vous allez en Iran, si vous voyagez aujourd'hui en Iran, vous allez voir que dans les taxis, dans les bus, dans les coiffeurs, chez les coiffeurs, ailleurs, tout le monde parle. Il y a les gens qui... La conversion, quand tu es né musulman, la conversion est interdite par la loi islamique. Mais il y a les gens qui vont... de toute façon, les darwiches se développent, les idées soufis se développent, les zoroastriens aussi, et les chrétiens aussi, et les autres, les bahaïs également, malgré la répression, et l'athéisme aussi se développe. Et on arrive à un autre scénario catastrophique, c'est que les religieux, même ceux qui ne sont pas islamistes, ils sont détestés. Ça veut dire, en fait, les gens qui prennent l'habit religieux, parfois ils se plaignent aussi que dans la rue, ils reçoivent des insultes.
C'est-à-dire que l'aversion est devenue contre quiconque affiche une appartenance confessionnelle. C'est-à-dire que là, on a englobé l'ensemble des appartenances confessionnelles à cause des méfaits de l'islamisme politique.
En même temps, la superstition fait ravage. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas regarder le tableau comme un tableau simple. Puisqu'il n'y a pas une éducation critique, de toute façon, les gens, quand ils sont dans le désarroi, ils cherchent une solution magique. Et donc, il y a tout type de pensées superstitieuses qui se développent en même temps qu'il y a une résistance intellectuelle.
Merci infiniment, Sahla Shafir. Merci, on finit sur ces, en tout cas, cet espoir qu'on en finira un jour avec la pensée magique et les représentations superstitieuses. Vous êtes venu nous entretenir de l'Iran et du peuple iranien en proie à l'islamisme politique et ses ravages. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son était assurée par Guillaume Ledu. La réalisation est assumée par Anne-Laure Chanel.
دگر جایی یارب چه خوش است اینجا هر لحظه تماشایی قمرت گویم نور بصرت گویم جان دگرت گویم یا صحت بیماری یا Oh!